La sagesse et l'amour, récit mythologique de Jules de Saint-Félix. Chapitre 1er. Jupiter dit à Neptune, son frère, « Tu auras la mer intérieure et l'océan. » Il dit à Pluton, son frère, « Tu auras le feu, les enfers et le Tartare. » « À qui donnes-tu la terre ?» demandèrent Pluton et Neptune. Jupiter répondit, « La terre est à l'homme. » « Jupiter est fou !» se dirent entre Neptune et Pluton, et chacun d'eux regagna son empire. Alors Jupiter appela Minerve, la déesse Ariba, grande et fière, le front candide, le regard céruléen. « Ma fille, lui dit Jupiter, j'ai livré le feu à Pluton et l'eau à Neptune. J'ai donné la terre à l'homme. J'aurais pu la garder pour moi, mais l'homme, cette intelligence exilée des cieux, eut mené sa vie parmi les bêtes sauvages. La terre, sous ma main, se fut transformée tout à coup en jardin magnifique. Mais c'eût été l'œuvre d'un dieu, créé pour un dieu et n'ayant qu'un dieu pour témoin de sa propre gloire et pour glorificateur de sa puissance. Il m'a paru doux et nouveau de voir naître une œuvre des mains du travail et sous l'inspiration de l'intelligence. J'ai donné la terre à l'homme, Pluton et Neptune en ont murmuré. N'importe, la terre est à l'homme, ai-je bien fait ? Minerve répondit avec un grave sourire, « Jupiter est sage. »« Ma fille, reprit Jupiter, tu as la beauté, le conseil, la pureté, la jeunesse. Prends l'homme sous ta garde, qu'il prospère à tes enseignements. Va, ma fille, moi je retourne dans les cieux pour jouir, avec Junon, du spectacle de l'univers. » Minerve appela l'homme, et elle l'enseigna. Alors se formèrent les familles, et la terre cultivée se couvrit de moissons et de fruits savoureux. Les femmes entreprirent les premiers travaux du foyer domestique, et elles élevèrent les enfants. Les hommes domptèrent le cheval et le taureau et lancèrent les premiers navires sur les fleuves et la mer. L'abondance allait çà et là, répandant tous les biens à pleine main. La justice, encore sans balance et sans glaive, marchait d'un pas majestueux au milieu des tribus humaines qui recueillait ses paroles et qui l'adorait. C'était l'âge d'or. Ainsi s'écoula un siècle tout entier. Chapitre 2e. Il arriva qu'un jour, au moment où la première heure matinale montait de l'horizon, souriante et versant la rosée, on entendit tout à coup la mer rendre un murmure comme un long soupir. L'eau marine était bleue et limpide, mais de grandes vagues allaient roulant sur la rive d'un golfe d'Ionie. Une d'entre elles, une vague brillante et écumeuse s'avança jusqu'au sable fin du rivage et là, elle s'ouvrit comme une conque. Puis elle se replia sur elle-même, recula lentement et s'effaça dans le golfe. L'eau ondula en cercle magnifique. L'aurore, émue, s'arrêta sur le bord des cieux. Les feuillages frémirent, les jeunes fleurs s'ouvrirent radieuses et odorantes, et des volées d'oiseaux éparses dans les terres jetèrent des cris mélodieux. Blanche et suave, les pieds encore dans l'eau transparente, la chevelure soulevée au vent matinal comme une écharpe d'or, la divine Aphrodite, étonnée de l'univers qu'elle voyait pour la première fois, regardait autour d'elle et souriait. Puis elle s'avança à pas lents, tendant les bras au monde, et le monde fut conquis. Chapitre 3e. Père des dieux et des hommes, s'écrie Minerve. Tu m'avais confié les tribus humaines pour leur donner des lois, mais je te les rends, Jupiter. L'homme devient insensé et la femme est perfide. Une déesse sortie de l'écume et des flots a troublé l'univers. Oh, puissant Jupiter, elle domptera même les dieux. Ma fille Minerve, dit Jupiter, arrivant des nuées. Vénus les tient déjà sous son empire. Nos regards ont rencontré les siens. Nous voilà domptés, ô sagesse. Alors, dit Minerve, je n'ai plus qu'à remonter dans les cieux. Eh, quoi ? S'écria Jupiter. Si tu les abandonnes, que deviendront les tribus humaines ? Regarde-les, armées les unes contre les autres. La guerre est venue. Les passions effrénées ont allumé la guerre. C'est l'œuvre de Vénus, dit Minerve avec dédain. Vois les épouses chastes jusqu'à ce jour, reprit Jupiter. Vois les vierges timides jusqu'à ce jour. Regarde-les, Minerve. Aujourd'hui, altière ou rusée, elle se joue de la pudeur ou de la foi conjugale. « C'est l'œuvre de Vénus, » répondit Minerve, dont l'œil étincelait de colère. « Vois la terre désolée, reprit Jupiter, vois les champs abandonnés, les foyers déserts, le travail méprisé, la débauche triomphante. C'est l'œuvre de Vénus, répondit Minerve avec fierté. Vois, ma fille, continua Jupiter, vois les déesses et les dieux troublés comme les mortels et livrés aux mêmes passions. Ah, lâche, s'écria Minerve, c'est l'œuvre de Vénus. Et moi-même, reprit Jupiter, moi-même, que vais-je devenir? Ma poitrine brûle, et ma tête immortelle qui commande à la foudre, ma tête rayonnante a des vertiges. Malheur, honte et malheur, dit Minerve, le regard humide de larmes, c'est l'œuvre de Vénus. Puis, se redressant tout à coup, la guerrière reprit. Or, puisqu'il en est ainsi, moi, la sagesse, moi, je saisirai l'épée, je sauverai les dieux et le monde, je chasserai Vénus. Alors un cri terrible retentit dans l'univers, la sagesse indignée poursuivait l'amour. Chapitre 4e. La sagesse avait tort, bien que l'amour déréglé eût troublé et perverti le monde. Ainsi s'écoulèrent trois cycles différents entre eux, mais pendant lesquels les destinées humaines allaient toujours en se précipitant vers le malheur. L'âge d'argent, l'âge d'airain, l'âge de fer. Chapitre 5e. Un jour, Minerve armée rencontra Vénus qu'elle n'avait encore pu atteindre à travers les tribus humaines qui protégeaient cette belle immortelle. C'était au bord du fleuve Méandre, dans la voluptueuse Lydie. Le lieu était solitaire et d'une splendide beauté. Les eaux du Méandre roulaient comme un zone argenté dans les eaux de cette mer bleue d'azur qui fut depuis la mer Égée. Les pentes des monts Latmos, couvertes de myrtes sauvages et de lauriers à fleurs roses, descendaient en nappes de verdure jusqu'au bord du fleuve. Dans un sinus abrité et d'une onde si claire qu'on voyait le fond comme un tapis de mousse marine, Vénus sortait du bain. Les naïades et les naréides séchaient ses blondes épaules. Le char léger était abrité sous des lentisques, et les deux cygnes en liberté voguaient paisiblement sur le cristal du méandre. Quand Minerve parut tout à coup, les Néréides et les Naïades épouvantées jetèrent des cris et se replongèrent dans les eaux. Leurs chevelures flottaient à la brise. Leurs bras blancs et leurs épaules marmoréennes se montraient dans la transparence des ondes. Restée seule, Vénus eut peur, mais l'air calme de Minerve la rassura. Longtemps, les deux déesses qui se voyaient pour la première fois se regardèrent en face. Vénus relevait sa tunique et ne montrait qu'à mi-corps ses formes divines. « Fille de Jupiter, dit Vénus, tu es bien belle. »«
La sagesse est belle, reprit Pallas, mais par malheur, la volupté l'est aussi. »«
La beauté est ma puissance, ajouta la blonde déesse. Est-ce ma faute? Le destin le voulut ainsi. »
La volupté, dit Pallas, est la perversité.
Déesse, reprit Vénus, ta sagesse te trompe. Je ne suis pas la volupté, je suis l'amour.
Pallas renversa sa lance dont elle enfonça la pointe dans le sable, et elle s'appuya sur cette arme brillante pour écouter Vénus.
Je suis l'amour, reprit la déesse. J'ignore mon origine. Je naquis tout à coup de l'écume des flots, et voyant l'univers, je lui tendis les bras par un élan irrésistible. L'univers tressaillit, et nous fûmes l'un à l'autre, comme l'épouse et l'époux. Le feu de mon cœur et de mes sens passa dans les veines du monde. J'aimais et me sentis aimée. Radieuse et satisfaite, je regardais les cieux qui souriaient à leur tour. Que veux-tu, Pallas? Le destin fit ces choses, je n'en suis point coupable. Cherche les causes de l'amour, mais ne poursuis pas Vénus. Tu me reproches les passions effrénées, les troubles insensés, la guerre flamboyante, les ivresses qui font les crimes. Oh, sagesse, où est ta raison? Si les hommes et les dieux se sont mépris sur l'amour chaste et ardent que je leur apportais, si follement ils se sont jetés dans les voluptés honteuses, échevelées, est-ce ma faute? Regarde-moi, fille de Jupiter. L'effronterie siège-t-elle sur mon front, et mon regard est-il impudique?
Pallas contempla la déesse, elle soupira, et, baissant les yeux, elle se prit à rêver profondément.
Dans quel abîme plonge ta pensée? Demanda Vénus. Je regarde dans l'avenir, dit Pallas. Que de sanglantes mêlées, que de perfidies occultes, que
que de lâches assassinats, que de honteuses débauches, que d'adultères, et tout cela à cause de toi.
Sur ce même rivage, dans une contrée voisine, une ville se nommera Ilion, et deux peuples tireront l'épée pour une femme impudique et disputée par des héros.
Au-delà des mers, dans l'Eliade, à Mycène, une épouse adultère égorgera son époux, le roi des rois.
Plus tard, dans une ville nommée Corinthe, voluptueuse cité entre deux golfes couchés, des courtisanes marcheront la tête haute à travers la foule de leurs poursuivants.
Je détourne mes regards. J'en ai vu bien assez.
Non, dit Vénus, tu n'as pas tout vu, sage Minerve. Tu viens de me montrer la volupté impudique, lâche et homicide. Mais je te l'ai dit. Qu'a-t-elle de commun avec l'amour? Regarde à ton tour dans les profondeurs lumineuses de l'avenir. Vois cette île aux pentes fertiles et couvertes de bois d'olivier, ton arbre aimé, belle Pallas. Vois cette demeure grande et simple, et ce jardin où s'élèvent 12 poiriers. C'est Ithaque, c'est le palais d'Ulysse. Vois la plus chaste, la plus séduisante, la plus aimée des épouses, c'est Pénélope, la fille d'Icare.
Ah, Minerve, elle brûle de l'amour le plus tendre et le plus légitime. 43 la poursuivent de leur folle passion. Regarde sa toile tisser le jour et défiler la nuit. Déesse de la sagesse, cette femme, dont le cœur brûle d'une flamme si pure, est aussi sage que toi.
Regarde au loin cette reine superbe et puissante élevant à son époux Mausole le plus splendide tombeau de l'univers, et s'y renfermant vivante pour ne pas survivre à ses chères et ardentes amours.
Reconnais Artémise, regarde ce côté, sur la rive de cette Phrygie que tu m'as signalée,
à Ilion même assiégée pour Hélène la grecque.
Oh, Minerve, contemple la divine Andromaque.
Et veux-tu que nous parcourions ensemble d'autres contrées encore?
Va, l'amour te montrera partout ses triomphes, l'amour impétueux, irrésistible, dominateur, mais héroïque et tendre, pur et magnanime.
Celui que j'appelle un mortel,
l'amour, cette flamme céleste, dont j'embrase le monde.
Pallas, cesse de m'outrager.
Ô sagesse, cesse de me méconnaître et surtout de me haïr.
Minerve, apaisée, regarda Vénus, et elle s'étonna de ne plus ressentir dans son sein les tumultes de la colère.
Vénus la blonde reprit. Je suis la vie et l'harmonie du monde. C'est moi qui féconde la terre et peuple les mers. C'est moi qui fais germer les vallées et les montagnes. Par moi, les races se renouvellent et se perpétuent. Je suis le germe qui fait naître et le feu qui régénère. Mais que dis-je? Mon empire s'étend sur les immortels eux-mêmes. C'est moi qui endors l'aurore dans les bras de Céphale. C'est moi qui l'éveille et qui l'amène sur les bords des cieux, souriant à la terre et lui versant des fleurs à pleine main. C'est moi qui au couchant précipite le rayonnant Phébus dans le sein d'Amphitrite.
Arrête, dit Pallas, et cesse de me raconter les amours des dieux.
Oui, reprit Vénus, revenons à la terre.
Vois le jeune homme dont j'ai enflammé le cœur et éclairé l'intelligence. Que de force et de vertu en lui, quelle fierté et quelle douceur dans ses regards. L'amour l'anime et en fait un demi-dieu.
Vois la jeune fille à qui j'ai révélé des mystères. Qu'elle est belle, ô Pallas, et comme l'amante fait déjà deviner ce que sera la mère. C'est moi qui réunis les familles humaines, qui adoucis leurs mœurs et les amène à former des tribus et des cités.
Vénus, dit Minerve, ta puissance est grande, mais tu n'as inventé ni les arts, ni les travaux industrieux. Un jour viendra où moi, la sagesse et l'intelligence, je donnerai mon nom et des lois à la plus noble et à la plus célèbre cité. Elle dominera sur le monde par l'influence de son génie et elle m'élèvera un temple qui sera le chef-d'œuvre de la main des mortels.
« Oui, divine Athénée, répondit Vénus, mais ce temple sur l'Acropole, ce temple dominant la mer de Myrtos, aurait-il la splendeur de l'Olympe qu'il ne serait jamais qu'un marbre froid et triste de sévérité si je n'y amenais les plus chastes et les plus belles des jeunes filles de l'Attique? L'art par lui-même est bien puissant, ô Minerve, mais l'art animé d'un rayon de l'amour est divin.
Ah, déesse au langage séducteur, s'écria Pallas, je sens que ma haine s'en va.
Et que la douce amitié succède à la haine, ajouta Vénus.
Alors ces deux belles immortelles se tendirent la main, et les forêts d'alentour, le fleuve et la mer en tressaillirent de joie. En ce moment, on entendit sur les pentes boisées du mont Latmos les aboiements d'une meute. Des nymphes passèrent, le carquois sur l'épaule, légères et rapides. « Quel est ce bruit ?» dit Minerve. « C'est Diane, chassant dans les forêts, » répondit Vénus. « Ah, du moins, » ajouta Pallas, « celle-là échappe à la puissance de l'amour. Tu crois cela ?» répondit Vénus avec un sourire d'une indescriptible finesse. « Eh bien, regarde, les nymphes et la meute courent après le cerf aux abois. Mais où donc est Diane ?»« Oh, Pallas, pardonne à la divine chasseresse. Regarde de ce côté de la forêt sous ses grands ombrages. Vois une tunique flottante. Cette jeune fille qui marche à pas discrets, svelte et prudente, la poitrine haletante et effleurant à peine l'herbe des bois de ses beaux pieds. C'est la déesse, cherchant dans les retraites ombreuses, le chasseur Endymion. Que les nymphes et la meute s'élancent après le cerf, Diane a tardé les rejoindra plus belle et plus sereine que jamais. « Elle aussi ?» s'écria Minerve en penchant la tête. « Vénus, Vénus, tu m'épargneras peut-être ?»«
Oui, » dit la blonde déesse, « car tu es la divine sagesse qui est la sauvegarde de l'amour.
Unis par une alliance sincère, nous serons les deux bonnes déesses du monde. Toi, la flamme qui éclaire, moi, le feu qui vivifie. Sois donc glorifié d'être venu à moi, sagesse immortelle. » Alors Vénus releva sa tunique jusqu'à l'épaule, et rappelant les naïades et les néréides, on entoura Minerve qui se laissa désarmer, et les danses pudiques se déroulèrent en magnifique théorie devant les deux immortels. Puis Minerve, apaisée et souriante, prit Vénus par la main et l'amena à Jupiter.
« Et quoi ? » s'écria le père des dieux et des hommes. « Vous voilà réunis !»«
Père rayonnant, » dit Pallas, « fais à l'univers des destinées nouvelles. » La mer est à Neptune, le feu à Pluton, la terre est à l'homme. Mais dans ces trois empires, tout désormais sera soumis à l'amour guidé par la sagesse. En dehors de cette immortelle jouissance, tout sera désordre et calamité.
Mes belles déesses, dit Jupiter,
je me range moi-même sous vos lois. Que l'univers soit heureux.
Ainsi s'achève la sagesse